Bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni. C'est une joie de me retrouver ici, dans votre église. Je suis un habitué maintenant. Hein? Et que le Seigneur puisse nous faire du bien au travers de la parole, comme il fait du bien au travers de son Esprit Saint qui parle à nos cœurs, par les chants, par les louanges, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier message que j'ai apporté dans un culte. Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était sur l'intimité. Vous en souvenez maintenant? Voilà. J'avais même demandé à Mme Isabelle Gault de terminer par la prière. Elle doit s'en souvenir. Je ne sais pas si elle m'a pardonné. Voilà. J'avais pensé continuer cette étude. Peut-être le ferai-je cet après-midi, mais le Saint-Esprit a mis quelque chose d'autre à mon cœur et je voudrais le partager avec vous tout simplement. J'aimerais lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4e. Actes des Apôtres, chapitre 4, bien sûr, je salue particulièrement mes frères bien-aimés dans le ministère, que Dieu les bénisse. Et c'est toujours une joie de les voir. À partir du verset 5e du chapitre 4e, voilà ce que nous pourrions lire. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur. Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. » C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Pour expliquer le contexte, la Bible nous dit que Pierre et Jean, se rendant au temple à l'heure de la prière, s'arrêtent devant un homme qui est là, devant le temple, qui demande l'aumône. C'est un infirme. Pierre et Jean s'arrêtant, Pierre dit à cet homme, « Nous n'avons rien, je n'ai rien, ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, cet homme est délivré, guéri entièrement, il se lève et il entre dans le temple, louant le Seigneur. À la suite de cela, la foule se rassemble et les religieux mécontents mettent les mains sur Pierre et Jean et les conduisent en prison. Puis le lendemain, ils les appellent, ils leur font des menaces, vous interdisant de parler de ce nom de Jésus, etc. Toutefois, et c'est là le verset que j'aimerais méditer avec vous, il nous est dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pour que les gens nous reconnaissent comme ayant été avec Jésus, il faut que nous connaissions Jésus. La palisse en aurait dit autant, hein? Si je connais Jésus, les gens me reconnaîtront comme étant un disciple de Jésus. D'ailleurs, je dirais c'est normal. Vous avez vu des gens qui restent longtemps ensemble. Ils finissent par calquer les habitudes de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. C'est automatique. Regardez un enfant. Il reproduit ce que ses parents produisent. C'est systématique. Nous pouvons voir des couples ensemble d'un certain âge, eh bien, ils se connaissent tellement bien. Est-ce que les gens peuvent nous reconnaître comme étant des disciples de Jésus? Pourtant, Pierre et Jean n'avaient pas l'instruction des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi. Pierre et Jean n'avaient peut-être pas une grande instruction. Ça ne veut pas dire que l'instruction nous empêche d'être des disciples de Jésus. Bien au contraire. Mais ça veut dire simplement qu'ils sont obligés de remarquer en eux qu'ils ont été des disciples de Jésus. Et nous verrons si les affaires remarquer dans quelques instants. Un frère dans le ministère me disait, et j'ai bien aimé son expression, « Les chrétiens sont comme des poissons dans un bocal. » Je ne sais pas si vous avez un bocal chez vous, ou un aquarium. Vous n'en avez pas ? Est-ce qu'il y en a qui en ont ? Ouais, il y en a. Vous avez remarqué que quand quelqu'un vient chez vous, un étranger, s'il y a un bocal ou un aquarium, quelle est la première chose qu'il fait ? Voilà, il va voir l'aquarium ou le bocal pour regarder le poisson. Et il me disait, les chrétiens sont comme des poissons dans un bocal. Tout le monde les regarde. Et ça, j'en suis convaincu. Vous ne faites pas attention. Vous ne prêtez pas attention. Mais moi, je vous dis, et je vous le dis de la part de Dieu, tout le monde vous regarde. Dans la rue, dans la voiture, au travail, n'importe où, tout le monde vous regarde. Un frère dans le ministère, qui se trouve dans l'est de la France, me disait, il accompagnait sa petite fille à l'école régulièrement. Et un jour, alors, vous savez comment sont les papas, ils s'aiment rire, plaisanter avec leurs enfants, ils faisaient la bise avant de la laisser. Et un jour, il a entendu une voiture de portière claquer. Et une femme est allée à sa rencontre. Elle lui dit, excusez-moi, monsieur. Alors, il l'a regardé, elle lui dit, ça fait 2 ans que je vous observe. Vous conduisez votre enfant depuis 2 ans à l'école. Je vous observe, vous êtes toujours gentil, plaisant avec elle. Je ne vous ai jamais vu énervé, vous l'embrassez, vous riez. Qu'est-ce qui vous donne cette joie ? Il était étonné, épié depuis 2 ans et il ne le savait pas. Nous y reviendrons là-dessus. Je vous dis, les chrétiens sont comme d'un poisson dans un bocal. Et vous êtes regardés. Quand j'étais jeune, bien avant d'entrer dans le ministère, à un moment donné, j'avais fait une demande pour travailler à la trésorerie générale et à la perception. Et à un moment donné, j'ai une invitation à me présenter au commissariat de police. Je n'avais pas fait de bêtises. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je me suis présenté, et là, j'ai eu le commissaire. Il m'a dit, voilà, vous appelez monsieur Guy Galifot, oui, etc. Il m'a dit, voilà ce que vous faites actuellement. Vous avez fait une demande pour entrer à la trésorerie générale, oui. Il m'a dit, vous passez vos dimanches au 25 boulevard Garrison à Montauban. Pour ceux qui ne savent pas, le 25 boulevard Garrison à Montauban, c'est l'église évangélique. Il m'avait épié, il savait toute ma vie. Évidemment, pour rentrer à la trésorerie générale, il valait mieux ne pas avoir fait les 400 coups avant. Donc, il savait toute ma vie. Moi, je ne les avais jamais remarqués. Je ne les avais jamais vus. Mais eux, ils m'avaient suivi. Ils m'avaient vu et ils m'avaient considéré. Alors, si eux sont capables de le faire dans un but précis, en vue de l'obtention d'un travail, à plus forte raison, les gens qui vivent dans la souffrance, dans leurs problèmes, dans leur misère, dans, je dirais, tant de choses qui ne vont pas en eux et qui ont soif de bonheur, soif de paix, regardent ceux qui procurent la paix. N'est-il pas vrai ? Regardent ceux qui sont remplis de joie, parce que le monde a besoin de cela. Ils n'ont pas besoin de chrétiens qui vont leur faire des reproches, leur dire un tas de choses. Ils ont besoin de voir des chrétiens différents. Et nous allons le voir dans quelques instants. Les hommes religieux les reconnurent comme étant des disciples de Jésus, comme ayant été avec Jésus. Alors, puissent les gens qui nous côtoient voir que comme Pierre et Jean, nous avons été avec Jésus. Bien sûr, il faut le connaître. C'était là ma louange ce matin, connaître Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Et plus je connais le Seigneur, plus il se laisse connaître en moi. Parce que sa connaissance dépend de lui. Et plus il se laisse connaître, plus les gens le reconnaîtront dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui a fait reconnaître ses disciples ? Il aurait fallu lire le chapitre 4 et voire même tout en entier ce chapitre pour comprendre les versets que je vais utiliser à ce fait-là. Tout d'abord, ils ont de l'assurance. Voyant leur assurance. Et ça, c'est important dans la vie du chrétien. L'apôtre Paul pouvait dire, « Je sais en qui j'ai cru. » Ce n'est pas une vague idée religieuse ou philosophie religieuse ou une vague religion quelconque. « Je sais en qui je crois. » Et ça, c'est important. Je ne crois pas dans le mouvement de Pentecôte. Excusez-moi, je suis pentecôtiste. Je ne crois pas dans les assemblées de Dieu. Je crois en Jésus. Dieu soit béni de l'avoir connu dans le mouvement de Pentecôte. Vous comprenez la différence? Mais mon salut, ce n'est pas les assemblées de Dieu. Mon salut, c'est Jésus. Je sais en qui je crois. Alléluia. Et en dehors des assemblées de Dieu, il y a bien des chrétiens qui existent également et qui sont sauvés. Que Dieu soit béni. N'empêche que j'aime la Pentecôte et que je suis un pentecôtiste. Je dirais 120% si ça peut se dire. J'aime la vie de l'Esprit. Néanmoins, je sais en qui je crois. Ce n'est pas des règles, des préceptes. Ce ne sont pas des commandements. C'est une personne. Une personne. Et ça, c'est important. Je me souviens du témoignage que rapportait un brave frère africain, je ne sais pas de quel pays d'Afrique, je ne me souviens plus, mais Dieu lui a donné, il est maintenant d'un certain âge, Dieu lui a donné un ministère béni, que Dieu soit béni, et il s'est révélé plusieurs fois à lui. D'ailleurs, il a eu le privilège, je dis le privilège, ce n'est pas nécessaire pour être disciple de Jésus, le privilège de voir Jésus. Et un jour, cet homme était en Corée, à Séoul, et le frère Yonggi Cho lui a demandé de rendre témoignage. Il a dit, mais pas plus de... Alors, le temps lui a été donné, peut-être 5 minutes. Et ce frère s'est levé, brave frère. Alors, c'est, je ne sais pas si vous voyez le contexte, il vient d'Afrique, etc. Il est là, au milieu de cette grande église. Et puis là, il a commencé à dire au frère Yonggi Cho, j'ai même pas besoin de 5 minutes, simplement 2 minutes. Alors, on se méfie quand les gens nous disent cela, hein, c'est là qu'ils sont le plus bavards. Et puis, il a dit simplement, il s'est levé et il a dit, Jésus-Christ est vivant! Il a commencé à dire cela. Les gens sur le balcon, pour ceux qui connaissent, j'ai eu le privilège d'y aller, les gens sur le balcon ont commencé à être visités par la puissance du Saint-Esprit. Les uns sont tombés, les autres étaient guéris à leur place. Simplement, il n'a rien dit d'autre. Yonggi Cho ne lui a pas demandé 5 minutes, il l'a fait rester 15 jours ou 3 semaines. Il connaissait Jésus. Il savait de qui il parlait. Et quand il disait Jésus-Christ est vivant, mais il savait ce qu'il disait. Il l'avait vu. Est-ce que je sais? Est-ce que j'ai de l'assurance? Quand je témoigne, est-ce que j'ai de l'assurance? Est-ce que quand je parle de Jésus, quand je prie Jésus, est-ce que j'ai de l'assurance? Est-ce que je le connais? C'est la première chose qu'ils avaient. Et voyant l'assurance de Pierre et Jean, ils ne pouvaient rien dire. Vous avez remarqué que quand ils sont relâchés, ils vont voir les leurs, ils y reviendront, et à un moment donné, ils se mettent à prier. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Seigneur, donne-nous de l'assurance, afin que quand nous prêchons, que nous ayons l'assurance. Il est vivant. Il est avec nous. Il est près de nous. Donc, il s'occupe de nous. Est-ce que nous avons cette assurance? Deuxième chose que nous trouvons, c'est leur foi. Ah! Ils disent, mais c'est par la foi en son nom. Ce n'est pas une vague foi. Oui, je crois que Dieu existe. Ce n'est pas une vague foi. Je crois ce que dit la parole de Dieu. Mais quand eux-mêmes passent par des moments difficiles, par des problèmes, par des choses où il y a un combat, à ce moment-là, on se rend compte que leur foi, bien, elle est presque inexistante. Non, ils avaient la foi. C'est par la foi en son nom. D'ailleurs, s'ils s'arrêtent, c'est par la foi. Est-ce que nous avons la foi? Vous savez, quand nous lisons dans la parole que Jésus dit « Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi ?» Il ne s'adresse pas aux gens du dehors, au monde, il s'adresse à l'Église de Jésus. Est-ce que nous serons toujours dans la foi ? Et pour moi, la foi, ça ne passe pas spécialement par des choses qui sont un peu, excusez-moi le mot, charnelles, émotives, sentimentales. Je suis visité, j'ai la foi là, oh c'est à fond. Et puis le soir, il n'y a plus rien. La foi, c'est quelque chose qui est vrai, qui est profond, qui est comme l'espérance, une encre de l'âme. Elle demeure en moi et rien ne peut me l'ôter. Cette foi, elle est vivante. Cette foi, elle dépend de la présence du Seigneur dans ma vie. Je sais qu'il est avec moi, donc je suis dans la foi. Ils avaient la foi. Même s'il y a des menaces sur leur vie, ça ne les fera pas chuter, revenir en arrière. Je dirais, renier le nom de Jésus, absolument pas. Ils sont dans la foi. Est-ce que nous avons la foi ? Souvent, Dieu permet que nous passions par des difficultés, des épreuves, afin que les gens qui nous entourent, ceux qui ne connaissent pas Dieu, découvrent notre foi. Et quand ils voient que nous obtenons la bénédiction par la foi, ça les interpelle. Ça les interpelle. Je pourrais citer des exemples de gens qui se sont trouvés devant des difficultés, ils ne savaient pas comment faire, mais ils avaient la foi et ils l'ont dit. Et Dieu a honoré leur foi. Car s'il y a bien quelque chose qui touche le cœur de Dieu plus que tout, c'est notre foi. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Dieu a été sensibilisé par la foi d'Abraham. Vous le savez. Mais Jésus a été touché par la foi de ceux qui étaient païens, donc qui n'étaient pas d'origine israélite. Mais il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dieu est touché par notre foi. C'est lui faire honneur. Je dirais, ce qu'il les a fait reconnaître, c'est également leur langage. Et quel était leur langage ? Eh bien, leur langage, et lisez, si vous le voulez, relisez tout le livre des Actes des Apôtres. Je vous demande beaucoup, pas d'ici ce soir, hein, mais relisez-le. Vous serez étonnés de voir que le langage des apôtres, il parlait de Jésus ressuscité. Je m'explique, hein. Il parlait de Jésus ressuscité. Il parlait de Jésus vivant. Quand ils se sont approchés de cet homme, ils lui ont pas dit c'est au nom de Jésus-Christ mort sur la croix que tu es guéri. Oui ou non ? Je sais qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a pris nos langueurs, nos maladies, nos souffrances. Et il a fait une fois pour toutes. Mais se sont approchés au nom de Jésus qui est ressuscité. Et vous lirez, 3e, 4e, 5e chapitre des Actes, et vous lirez tout le livre des Actes, vous serez étonnés de voir que leur langage, il parlait d'un Christ ressuscité. Et, me semble-t-il, ce qui manque aujourd'hui à l'Église de Dieu, c'est de parler de Jésus-Christ ressuscité. Si je vais trouver un inconverti, un musulman dans la rue, et ça nous arrive, et que je lui dise, Jésus est mort sur la croix pour toi, c'est de l'hébreu. Mais je lui dis, tu sais, Jésus, le Fils de Dieu, est vivant. Et il répond. Alors il va se poser des questions et il va me demander de prier. Je lisais hier, il n'y a pas plus tard qu'hier, un musulman fanatique, connu, il était meneur de bande. Sa femme tombe gravement malade. Il vient à la porte de cet évangéliste qui vient d'arriver dans son village. C'est en Inde. Et vous savez que ça ne pardonne pas trop là-bas. Hein. Il dit, voilà. Si tu dis que ton Dieu est vivant, eh bien qu'il guérisse ma femme. Sinon, je viens et tu ne seras plus longtemps sur terre. avec sa femme, l'évangéliste, a prié. Il dit, Seigneur, nous savons que tu es vivant. Pas même une semaine après, cet homme est revenu trouver l'évangéliste. Il lui a dit, votre Dieu est vivant, ma femme est guérie, il s'est converti. Il a été obligé de partir parce que tout le monde voulait le mettre à lui aussi à mort. Et il est devenu à son tour évangéliste. Qu'est-ce qu'il a touché ? Jésus-Christ est vivant. Le monde a besoin de le savoir. Autrefois, j'ai appartenu à une religion où on montrait Christ sur le bois de la croix. On le représentait mort. Mais aujourd'hui, je n'entends que parler de Christ sur la croix, des louanges sur la croix. Je sais qu'il est mort sur la croix, je le prêche en évangélisation. Mais pour moi, chrétien, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et il vit au milieu de nous, en nous. Que le Seigneur nous aide, c'est le langage nouveau du chrétien. Les œuvres, les autres religions sont mortes, excusez-moi, parce que tous leurs fondateurs sont morts. Mais notre Christ est ressuscité, il est vivant. Alléluia, c'est lui qui apparaîtra sur les nuées du ciel. C'est lui qui posera ses pieds aussi dans un autre temps sur la montagne des Oliviers qui se fendra en deux. C'est lui devant lequel tout genou fléchira et toute langue sera obligée de reconnaître qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il est vivant. Alléluia, c'est le langage du chrétien. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Je pense également, ce qu'il a fait reconnaître, c'est leur joie. Quand je dis leur joie, bien sûr, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça, c'est certain. Vous venez dans la joie à l'église. Vous êtes dans la joie quand Dieu a répondu à une de vos prières, à un de vos besoins. Vous êtes dans la joie. Que Dieu soit béni. Mais quand je lis au chapitre 5, c'est pour ça que je vous disais de le lire, quand vous lisez au chapitre 5, je vous dis, admettons le verset 41, il nous est dit, « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Ils sont joyeux de souffrir pour Jésus. Joyeux d'être persécutés, joyeux de subir des outrages. Jusqu'à présent, je vous avoue, je n'ai jamais entendu dans un culte, je ne sais pas si mes frères l'ont entendu, mais j'ai jamais entendu dans un culte quelqu'un qui louait le Seigneur. Seigneur, je te loue parce que cette semaine, on s'est moqué de moi. Cette semaine, quelqu'un m'a frappé à cause de ton nom. Vous avez entendu ça, frère? Je fais que lire ce que dit l'Évangile. Joyeux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. Leur joie, ce que je veux dire par là, je ne veux pas me réjouir que de cela, pas du tout. Mais je veux dire, être joyeux pour toutes circonstances. Autrefois, on chantait un petit chant. Excusez-moi pour le mot autrefois, je sais que ça ne plaît pas toujours. Toujours content, par la pluie, par le beau temps. Quel est le temps qu'il fasse, ça ne faisait rien, on était joyeux. Que les choses soient contraires ou beaux, ça ne faisait rien. Toujours dans la joie. Ça, ça fait reconnaître les disciples de Christ, être dans la joie. Non pas parce qu'aujourd'hui, il m'a dit bonjour, et puis demain, il ne me dit pas bonjour, je suis renfrogné, et se dira, non, être dans la joie. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Parce que si je souffre, c'est pour le nom de Jésus. Ça veut dire que je suis de son côté. Alléluia. La joie d'être arrêté, frappé, humilié, outragé, pour le nom de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à affronter tout cela? Je ne sais pas quel est l'avenir dans notre pays, dans notre Europe occidentale. Je ne sais pas ce que nous verrons. Mais dans bien des pays où il y a la tribulation, la persécution, moi je vous assure que ces gens-là, ils ont une joie. Qui ne dépend pas de leur possession, de leur bien. Il dépend, cette joie dépend de la présence du Seigneur en leur cœur et dans leur vie. Une autre chose qui les fait ressembler ou avoir été avec Jésus, c'est que leur communion avec l'Église, dès qu'ils sortent, menacés par le Sanhédrin, où vont-ils? À l'Église. ils vont à l'église. Et là, ils racontent ce qui a été fait contre eux. Ils sont dans la joie de partager. Est-ce que nous aimons l'œuvre de Jésus, l'église de Jésus? Est-ce que nous aimons l'œuvre du Seigneur? Nous avons été très touchés lorsque, arrivant à Saint-Gaudens, il y a des années de cela, à un moment donné, nos deux jumelles, il y en avait une qui était sur un tabouret, et l'autre voulait le même tabouret, c'est toujours comme ça. Elle l'a poussé, il y en a une qui est tombée sur la tête, sur le sol, qui était en ciment. Et moi, je faisais une réunion à Saint-Giron. Et quand je suis entré, revenu à la maison, ma femme me dit ce qui s'est passé. La petite avait perdu connaissance, elle était restée, je ne me souviens plus combien de temps, avec une perte de connaissance, un voisin l'avait amenée à l'hôpital ou chez le médecin, je ne me souviens plus. Et là, on lui avait dit, si elle reperd connaissance, si elle saigne, il n'y a rien à faire. Il y avait la réunion le soir à l'église de Saint-Gaudens. Et entre tous les sujets, réunion de prière, entre tous les sujets exposés, nous avons dit aussi ce qui était arrivé à notre petite. Et là, j'ai entendu l'église prier, comme si c'était leur propre enfant. Ça m'a touché. Peut-être que moi, je n'étais pas spécialement dans la foi, quoique j'aimais le Seigneur, je le servais, puis c'était ma fille. J'étais peut-être pas, à cause de mon émotion, de ce qui s'était passé, j'étais peut-être pas trop dans la foi, mais j'ai entendu les frères et sœurs prier. Et Dieu soit béni, Dieu a répondu, même si elle est tombée sur la tête, ça va bien, je vous assure. Hein, depuis, elle était même première à l'école, etc., pendant un temps. Alors, je crois, moi, dans la communion de l'Église de Jésus-Christ. Je crois dans la communion des frères et des sœurs. Et je crois qu'il n'y a rien de tel, quand il y a un problème, de le partager dans la mesure où c'est possible, et puis que les uns et les autres prient ensemble pour que Dieu intervienne. D'ailleurs, et du reste, combien l'ont fait l'expérience ici même, hein, devant un problème familial, devant un problème personnel, devant un autre problème, on a demandé le secours de l'Église de Jésus-Christ qui a prié, qui s'est tenu devant Dieu. Que de fois ces choses se sont produites, non seulement dans l'Église, mais en convention, etc. Oh, que Dieu en ait toute la gloire. Ils étaient là, ils sont allés voir l'Église. Ils étaient éprouvés, ils avaient été maltraités, ils sortent et ils vont dans l'Église. C'est là qu'ils peuvent se faire du bien et se refaire une santé spirituelle. À Dieu soit toute la gloire. Une autre chose également qui les fait reconnaître pour avoir été avec Jésus-Christ, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils se mettent à prier et à nouveau l'Esprit de Dieu les envahit, les saisit. Est-ce que nous aimons la présence de l'Esprit? Est-ce que nous laissons au Saint-Esprit le soin de remplir notre cœur et de pouvoir s'exprimer au milieu de nous? Est-ce que nous pouvons passer des moments de visitation où toute l'Église ensemble, mue par la présence, c'est pas provoqué, c'est pas poussé, c'est pas « allez, il faut faire ». Non, on n'a pas besoin d'être poussé, mais instantanément, l'Esprit de Dieu nous saisit tous, et tous ensemble, nous pouvons élever notre voix sous l'onction de l'Esprit, par l'Esprit, louer Dieu en langue, en esprit. Est-ce que nous avons cette liberté? Parce que c'est ce qui est arrivé. L'Esprit de Dieu était là, comme le premier jour de la Pentecôte, et la Bible nous dit, même le lieu où ils étaient, trembla. Est-ce que nous aimons la personne du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours dans nos cœurs et dans nos vies? Est-ce que le Saint-Esprit régit toujours, je dirais, toute chose en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est le Maître? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous saisir et nous amener à louer, à adorer Dieu? La Bible nous dit, le Saint-Esprit veut nous transformer en la même image que Jésus. Ah, puissions-nous laisser le Saint-Esprit se manifester en nous et dans nos réunions? J'aimerais encore donner un dernier point qui les a fait reconnaître comme étant des disciples de Jésus. C'est leur vision. Ils avaient une vision. Quand je dis une vision, je m'entends. Ils avaient un but. Parce qu'en anglais, on confond souvent songe, rêve et vision. Et ça, moi, je fais une différence. Hein. Un rêve, c'est un rêve. Je peux avoir le rêve d'une chose. Un songe, c'est un songe. Un rêve, c'est humain. Un songe, c'est de Dieu. Mais en anglais, ça ne différencie pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, parfois, dans certains ouvrages, il y a une confusion. Moi, j'ai un but, j'ai une vision qui m'est personnelle. Mais une vision de Dieu ou un songe, ça vient de Dieu. Ça n'est plus personnel, d'ailleurs ça dépense notre entendement. Alors là, ils avaient une vision personnelle. Ils avaient un but. Et quel était ce but-là? On pourrait le lire, mais je vous laisse le soin de le chercher chez vous au verset 30. Verset 29. « Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quelle est leur vision? Quel est leur but? Qu'ils se fassent des guérisons, des prodiges, des miracles par le nom de Jésus. Est-ce que c'est toujours notre but et notre vision à nous? Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est bon quand on commence une œuvre, quand on commence un mouvement quelque part pour s'implanter, etc. Moi, je regrette, mais l'Évangile ne nous dit pas du tout cela. Voici les miracles qui accompagneront, etc. Ceux qui auront cru, et ça, c'est pour toutes les générations, tous les âges. Le livre des Actes, lui, s'étend sur des dizaines d'années, au moins 40 ans, si j'ai pas de mémoire. Hein. Je demande à mon frère, parce que je sais que c'est un étudiant particulier de la parole de Dieu. Et je me réjouis de cela. C'est pas parce que il y a eu au début de l'œuvre beaucoup de prodiges et de miracles que maintenant l'œuvre étant établie, les miracles ne sont plus. Nous devons toujours avoir dans nos cœurs, Seigneur, donne-nous de l'assurance afin que quand nous parlerons de toi et quand l'évangile sera prêché dans cette église comme dans toutes les églises, il y ait des prodiges, des miracles et des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que c'est notre désir? Et je vous assure, il n'y a rien de tel qui peut toucher les cœurs que les miracles. Vous allez me dire, un miracle ne sauve personne, c'est sûr, mais un miracle nous conduit à Jésus. D'ailleurs, ceux qui disent que les miracles ne sauvent personne, c'est qu'ils n'ont pas dû en voir beaucoup. Parce que même s'ils ne sauvent personne, Jésus les fait quand même. Et vous ne savez pas si quelqu'un qui a été guéri ou miraculé un jour et qui n'accepte pas le Seigneur maintenant ne viendra pas à lui plus tard. Parce que dans toutes nos églises, nous avons des gens qui ont connu l'Évangile 40 ans, 50 ans en arrière, ils ont même été guéris, ils ont soi-disant oublié le Seigneur et ils reviennent 40 ans plus tard. De toute façon, vous avez remarqué que Jésus a guéri les 10 lépreux, même s'il n'y en a qu'un qui est revenu. Il les a tous bénis parce qu'il les aime. Qu'ils se convertissent par des miracles, des prodiges et des guérisons, qu'ils s'approchent de Jésus. Et Dieu fera son œuvre. En tout cas, j'en reviens à ses disciples, ces deux hommes. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Je vais vous donner un exemple où il y aura le mauvais côté et le bon. Comme ça me concerne, comme ça vous n'aurez pas d'idée sur moi. Nous étions dans les Charentes et le premier lundi de chaque mois, nous nous réunissions à Bordeaux en pastoral. Le dimanche soir, je reçois un coup de fil d'un frère qui habitait plus loin que moi. Il me dit, écoute, je te prends au passage, comme ça on fera la route ensemble. Oh, c'était formidable. Il me dit, je passe à telle heure. Alors, l'heure arrive le lundi matin, personne. L'heure passe, personne. Et elle passe bien l'heure. Alors je me suis dit, je ne sais pas, il n'y avait pas les portables à l'époque, tout cela. Alors j'ai dit, ben, je vais prendre la voiture de l'église et je vais aller à la pastorale. Au moment de la prendre, je me souviens que j'avais une crevaison la veille ou l'avant-veille, je n'avais pas fait réparer encore. Alors j'ai dit, ben, je vais prendre notre vieille voiture, c'était une vieille GS. Je vais pour la faire démarrer. Alors, je vous assure que je n'étais pas très, très, très heureux. Je vais pour prendre la vieille voiture, la GS, impossible à faire démarrer. Alors, j'attache une corde à la GS, c'est pas pour faire de la pub, hein, des voitures, des marques. Hein. J'attache une corde à la vieille voiture de l'église, et puis je dis à ma femme, tu prends le volant de la voiture de l'église, et puis tu vas me tirer. Elle démarre, bam, le pare-choc et la calandre arrachée. Alors, c'était la faute de ma femme, elle ne savait pas conduire, la pauvre. Il dit, reste, ça fait rien, je vais prendre la voiture de l'église, et puis si je crève, eh bien je crèverai, je resterai sur la route. J'étais pas bien. Ma famille était pour rien, la pauvre. Vous la connaissez, elle est là. Sur la route, il n'y avait pas l'autoroute. Il pleuvait, un lundi matin, tous les camions. Oh, j'étais dans un état. Je ne pouvais pas doubler, c'était un vieux diesel, je ne pouvais pas marcher, ça ne s'est pas roulé. Et puis je savais que j'étais en retard. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, Guy, où vas-tu? Je vais à la pastorale, Seigneur, à Bordeaux. Et le Saint-Esprit, une deuxième fois, me dit, Guy, où vas-tu? Là, j'ai réalisé ce qui se passait. Il dit, Seigneur, je vais pour t'adorer avec mes frères, mais... Et là, dans la voiture, j'étais seul et j'ai pleuré devant Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis même pas digne d'annoncer ta parole. Puis, Seigneur, tu sais toute chose. Ne me posez pas la question, ne me demandez pas comment je suis arrivé à l'heure à la pastorale. Ça, ne me demandez pas, je ne sais pas. En tout cas, je suis arrivé à l'heure. Et j'ai vu le frère, il me dit, oh Guy, excuse-moi, je n'ai pas pu venir. Il dit, ça n'a pas d'importance. On a passé une bonne journée, un message le matin, il y avait même l'après-midi, etc. à l'époque. Et bon moment. Et le soir, en repartant, je vois quelqu'un qui fait du stop là, avec une guitare et un sac à dos. Je m'arrête. J'ouvre la portière avant. La personne me regarde et me fait, vous allez me parler de Dieu. J'ai dit, oui, vous pouvez monter. Elle a mis les choses derrière et j'ai réfléchi. Si ça avait été le matin, dites-moi, si ça avait été le matin, vous croyez que cette personne m'aurait dit, vous allez me parler de Dieu, vu l'état où j'étais? Certainement pas. Vous voyez que les gens nous regardent. Alors bien sûr, je lui ai parlé de Dieu, je l'ai laissé là où la personne voulait. Et puis je suis arrivé à l'église, j'avais demandé à un frère de faire la réunion au cas où je serais en retard. Je suis arrivé à l'heure. Juste pour entendre ce que j'avais besoin d'entendre d'ailleurs. Et le frère avait préparé un message, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voyez-vous, Dieu nous enseigne, ça existe parmi mes frères parce qu'ils sont patients, mais moi j'avais besoin de cela. Ah Seigneur, les gens nous reconnaissent pour avoir été avec Jésus. Colette qui est là peut vous le dire, un jour, nous étions tous les deux, accompagnant un neveu qui devait acheter un costume pour assister à un mariage. Alors, vous savez, les hommes pour choisir. Hein. Heureusement, j'ai ma femme. Même pour les couleurs. Et elle était avec lui, regardait les costumes. Et puis moi, j'avais ma petite sacoche, là, puis je regardais les choses. J'avais besoin de rien, je ne cherchais rien. Et il y avait un Africain, un vigile, un agent de sécurité qui était là, grand gaillard, costaud. Il était là, puis tout d'un coup, il me regarde. Et il me fixe. Alors, j'étais étonné. Je me demandais ce qu'il voulait, mais je n'avais rien fait. Et puis, il fait quelques pas dans ma direction, puis tout d'un coup, hop, il s'en va dans une allée. Ah, bon. Il dit ça, il doit me surveiller. Je continue ma tournée, je regarde. Et puis, il se plante devant moi dans une autre allée. Et il me regarde et il me fixe. Oh, décidément. Et puis, il s'avance vers moi, puis il tourne dans une autre allée. Tiens. Bizarre. Je vous assure, j'avais rien pris. Hein. Et puis je le rencontre à nouveau. Il me regarde, il me voit. Et puis à nouveau, il vient vers moi en me fixant. Et là, il arrive jusqu'à moi. Il me dit, monsieur, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur. Oui. Il me dit, ça se voit sur vous. Alors là, j'étais étonné. Je me demandais ce qui se passait. Et j'ai pu lui parler. Et nous lui avons fait passer, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas... Encore à Montauban, nous lui avons fait passer une Bible pour qu'il reçoive la parole de Dieu travers de notre neveu. De loin, je ne sais pas comment il peut voir ça. Moi, j'en sais rien. Mais il l'a vu. J'avais des nouvelles il y a quelques mois d'une dame. Nous l'avons connue jeune fille. C'était dans la région parisienne. J'allais chez ma sœur. Je logeais chez elle. Je faisais une mission à Paris à l'époque. Et comme c'était l'anniversaire de ma sœur, j'avais pris ma nièce. Je l'ai vue simplement chez ma sœur. Je lui ai dit bonjour. Je prends ma nièce et nous allons acheter des fleurs pour ma sœur puisque c'était son anniversaire. Bon, moi, je ne suis pas très doué. J'avais pris des chrysanthèmes. Alors, au moment de l'emballer, la fleuriste m'a dit « Mais c'est pour qui ?» J'ai dit « C'est pour l'anniversaire de ma sœur. » Elle m'a dit « Il faudrait mieux acheter autre chose. » C'est joli quand même, non ? Alors, j'ai pris autre chose et puis je suis arrivé, on s'est mis à table. Et là, la jeune fille m'a regardé, Marie-Josée, je me souviens. Elle m'a dit « Je veux ce que vous avez. » Je n'avais pas témoigné, on n'avait pas parlé encore. Simplement, ma sœur lui avait dit « Mon frère est pasteur. » Elle m'a dit « Je veux ce que vous avez. » Oh, il n'y a pas de problème. Nous avons mangé et un autre pasteur est arrivé. Nous avons passé une soirée. Dans cette soirée, elle a donné son cœur au Seigneur Jésus. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et elle est mariée, elle a des enfants. Ils vivent en Bretagne, ils sont toujours attachés au Seigneur. Les gens nous regardent, frères et sœurs. Quand nous sommes au volant de notre voiture, j'ai pas besoin d'un poisson derrière, je ne l'ai pas d'ailleurs. Je ne l'ai pas. Mais je suis conscient que Jésus est avec nous. Et je veux être quelqu'un qui pourra témoigner du Seigneur Jésus. Quand nous sommes dans un endroit, un lieu public, les gens nous regardent. Est-ce qu'ils peuvent nous reconnaître comme étant différents des autres ? Quand nous sommes à la maison, que la porte est fermée à clé, là, il n'y a pas le pasteur qui nous voit. C'est même vrai pour le pasteur. Il n'y a personne qui nous voit. Mais est-ce qu'à l'intérieur de la maison, si les gens arrivaient à l'improviste, ils pourraient reconnaître que nous sommes des disciples de Jésus. Ça m'est arrivé un jour de faire une visite. J'arrive à l'adresse indiquée, c'était un immeuble, une porte. Au moment de sonner, j'ai entendu ça crier. Waouh ! Je frappe, parce que la sonnerie ne marchait pas, je me rappelle. On vient m'ouvrir. Ah, c'est vous, pasteur, venez, c'est gentil, etc. Ils étaient tout doux. Moi, j'avais entendu. Pas pour épier à la porte, mais j'avais entendu juste avant. Est-ce qu'ils pourraient nous reconnaître pour étant allés avec Jésus ? Étant des disciples de Jésus. Quelles que soient les circonstances traversées, quels que soient les moments que nous vivons, est-ce que les gens peuvent nous reconnaître pour étant des disciples de Jésus ? Si j'ai bonne mémoire, excuse-moi de dire cela, Marilyn. Ça y est, elle va avoir peur. Elle va se dire, qu'est-ce qu'il va raconter ? Marilyn, je l'ai vue toute petite, bébé. Il n'y a pas longtemps, plusieurs sœurs se sont retrouvées à chercher Dieu, à Rehoboth, hein, dans la prière, recherche de Dieu, que Dieu les soit béni. Et à un moment donné, m'ont demandé, j'avais dit à M. Go si je pouvais aller. Et il m'a dit, oui, bien sûr, on a partagé la parole de Dieu. Et je leur disais, quand on cherche Dieu, quand on jeûne et on prie, quand on en ressort, ça se voit sur nos visages. Vous en souvenez, mes sœurs ? Je leur dis, ça se voit, les gens le verront. Et le soir, Marilyn était contente de me téléphoner en me disant, je suis rentrée à la maison, son fils, c'est l'aîné, non ? L'aîné de notre couple bien-aimé, a regardé sa maman et lui a posé la question, « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Tu es changée, ton visage n'est pas pareil. » Il y avait quelque chose. Il s'en est aperçu, elle n'avait rien dit, mais elle avait cherché Dieu simplement. Et le contact avec Dieu, Dieu se révèle à nous. C'est normal qu'ils les aient reconnus comme étant allés avec Jésus. Ils étaient tellement remplis d'esprit, tellement remplis de Jésus. Ils étaient toujours avec Jésus que les autres ne peuvent pas passer outre. C'est pour ça, je ne vais pas avoir eu l'apparence pour essayer de me faire reconnaître. Ce n'est pas parce que je vais porter une croix ou un poisson ou n'importe qu'on va me dire « vous êtes un chrétien ». Mais tout simplement, les gens vont se dire « oh, celui-là, il est différent des autres. Celle-là, elle est différente. Il y a quelque chose, il y a une marque, il y a une empreinte, il y a quelque chose qui le différencie. Je veux ce qu'il a ou ce qu'elle a. » Simplement, ce sont des disciples de Jésus. Puisse le Seigneur nous reconnaître comme ses disciples et les gens nous reconnaître comme des disciples de Jésus. Pour que les gens nous reconnaissent, il faut que nous le connaissions et que nous soyons connus de lui. Et alors, eh bien, nous serons étonnés. Bien des gens que j'ai rencontrés sont venus à l'église parce qu'ils étaient convaincus déjà avant qu'on leur parle du Seigneur. Nous avons en ce moment plusieurs personnes inconverties que nous suivons avec Colette. Et la manière de les avoir abordées, nous ne leur avons pas parlé de Jésus au premier abord. Simplement, nous sommes allés, ils nous ont vus, et je me souviens d'une qui nous disait « Vous êtes beaux tous les deux, vous avez vu les rides ?» Je comprenais ça si j'avais 20 ans ou que ma femme en avait 20. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle. Mais beau pourquoi ? Ce n'était pas notre beauté physique. Il y avait quelque chose. Et cette jeune personne, vous pouvez le demander à ma femme, pourtant elle est musulmane, elle vient embrasser Colette. On témoigne. Ça fait boule de gomme. Il y en a d'autres. Nous sommes allés tout dernièrement auprès d'une jeune fille que nous amenons au Seigneur, qui a voulu la Bible, etc. Et il y avait un autre agent de sécurité qui était là. Regardez, alors, je suis allé le voir. Surtout qu'ils n'ont rien à craindre de moi. Ils sont toujours grands, costauds. Moi, je suis plutôt un dinky toy. C'est le mini. Eh bien, je vais le voir. Regardez, on a parlé. Il me dit, oui, mais je connais votre église. Je suis allé une fois, boulevard Garrison. Il faut y revenir maintenant, hein. Il y a quelque chose qui se fait. Il faut que les gens voient que nous sommes des disciples de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous imaginez? Imaginez-vous, tout à l'heure, je ne sais pas, hein, vous allez quelque part, peut-être vous avez oublié le pain ou n'importe, vous vous arrêtez. Oh, c'est drôle, vous êtes différent de vous. Hein. J'en ai vu, c'était des râleurs. Et vous êtes content. C'est pas formidable cela? Que deux fois on me l'a dit. Nous avons amené quelqu'un à l'église simplement parce qu'elle me disait: vous êtes la seule personne qui nous a fait un sourire. C'est pas grand-chose un sourire, c'est gratuit en plus. Hein. Mais on peut le faire parce qu'on aime les gens. On veut qu'ils connaissent Jésus. Moi, je veux que les gens connaissent celui que j'ai connu. Celui qui est le centre de notre vie à tous. Alléluia. Celui pour lequel nous travaillons. Celui que nous servons avec beaucoup de joie. Celui qui vit en nous. Celui qui aime les âmes. Il faut qu'ils reconnaissent en nous le Seigneur Jésus. Et alors, s'ils le reconnaissent, ils auront envie de le connaître à leur tour. Hein? Regardez, je n'ai rien, ni argent, ni or, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il va avec eux dans le temple. Que pensez-vous après qu'il ait fait? Moi, je suis sûr qu'il a dû dire partout autour de lui, vous savez, Jésus, il est vraiment ressuscité. Regardez ses apôtres, ses disciples. Et il a dû les conduire. Oh, puissions-nous les conduire ainsi devant le Seigneur? Parce que les gens verront que nous sommes ses disciples. À Dieu soit toute la gloire. On ne va pas par monts et par vaux, mais là où nous sommes, nous pouvons représenter le Seigneur. Simplement en faisant une visite à l'hôpital, simplement chez un commerçant, simplement chez un garagiste, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur veut que nous reflétions sa propre personne. J'ai entendu une prière tout à l'heure, c'est pas ma formulation à moi, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire, que nous soyons comme des petits Christ. J'ai compris le sens. Comme Christ a été glorifié, que Christ puisse être perçu dans nos vies, par nos vies. Voilà ce que ça voulait dire. Eh bien, c'est vrai que les gens puissent voir Jésus au travers de nos vies. Est-ce que c'est notre désir? Alléluia. Est-ce que nous voulons voir Jésus-Christ glorifié au travers de nos personnes, telles que nous sommes? Je ne veux pas essayer de ressembler physiquement à Jésus. Il n'y a pas d'image de Jésus. Mais moralement, spirituellement, nous pouvons être transformés en la même image. Et le Saint-Esprit peut faire de nous que les gens verront que nous sommes différents. Il faut que les gens voient la différence. Des gens religieux, il y en a, tant et tant. Il y en a même qui se disent religieux, mais ils ne croient même pas en Christ au fond de leur cœur. Hein. Comme disait un de nos ministres français, « Moi, je suis protestant, mais je ne crois pas. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Essayez de comprendre. Mais moi, je ne veux pas dire « Je suis protestant » ou « pentecôtiste ». Je veux dire « J'aime Jésus et je veux que les gens voient Jésus en moi, comme en chacun d'entre nous. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Amen. On peut remercier le Seigneur. Ah, moi je crois que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous transformer en la même image que Jésus. Je crois que la parole nous est annoncée pour ressembler à Jésus. Elle fait une œuvre de sanctification dans nos vies. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que notre frère monsieur Jean Oulé veut venir remercier le Seigneur et prier pour l'Église? Vous voulez bien venir, frère? Alléluia. Et prier pour l'Église, oh de Jésus-Christ. Merci.
Seigneur, en effet, nous sommes remplis de joie par le Saint-Esprit, parce que nous avons ce privilège de te connaître, de t'avoir rencontré un jour, de savoir que tu nous accompagnes en tout temps, en jour et nuit, tu nous accompagnes, quelles que soient les circonstances, et ta présence par le Saint-Esprit est tellement précieuse dans nos vies, dans nos cœurs, qu'elle se manifeste en effet par des fruits, par une action, par des détails qui ne nous sont pas, dont nous ne sommes pas conscients, mais qui sont visibles par ceux qui nous entourent, qui sont un témoignage sans parole, qui leur révèle que tu peux, en effet, changer les vies, tu peux transformer la vie de ceux qui te connaissent, qui sont tes disciples. Nous te demandons, Seigneur, de poursuivre cette action de ton esprit, de l'intensifier, comme ces frères dont il nous est parlé dans ce passage qui a été lu tout à l'heure. Seigneur, que nous puissions voir, en effet, ce que nous te demandons, c'est de produire, d'accomplir des prodiges et des miracles qui révéleront ta présence dans nos rassemblements ou dans chaque fois que ton nom est invoqué, Seigneur, que nous puissions voir ta puissance manifestée et révélée au cœur de ces personnes qui sont dans la détresse, leur révéler ton amour, ta bonté qui veut aussi les attirer à toi. Glorifie ton nom, Seigneur, et poursuis ton œuvre, intensifie ton œuvre parmi nous, Seigneur, dans nos églises, dans nos rassemblements en différents lieux. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Amen.